Ah, c'est merveilleux. Donc, je disais, un chapitre très important que je vais diviser en deux parties, comme vous le voyez sur ce plan, avec aujourd'hui principalement deux gros morceaux, le prologue de Jean et une étude iconologique, les trois coupoles de Saint-Marc à Venise. Donc, voilà, on va pouvoir se promener un petit peu. Le prologue de Jean, ensuite on fera dans lundi prochain, toujours sur cette question du verbe qui s'est fait chair, c'est l'intitulé de ce chapitre 2, le verbe s'est fait chair, on verra tout ce qui touche à la théologie de l'incarnation, avec Éphèse 431, je vous expliquerai, l'enfance du Christ, avec deux œuvres d'art, on se contentera de ça. Et puis les tentations du Christ, alors pourquoi je le mets dans le cycle de l'enfance? Parce que c'est en fait le pivot qui marque l'entrée du ministère de Jésus dans son ministère actif. Ça pourrait être le baptême du Christ aussi, qu'on verra un jour ou l'autre. Hein. Et puis mon chapitre 5, ce sera ce que j'appelle les adieux à sa mère. Ben, vous verrez bien la prochaine fois. Alors, je vous invite à couper les micros pour ceux que ce n'est pas fait. Attendez, je vais le faire. Voilà, c'est fait. Et tout à l'heure, vous prendrez la main hein, quand ce sera l'occasion de poser des questions. Alors, allons-y. Hop. Alors, j'essaie de faire passer la photo suivante. Il faut toujours une petite minute. Voilà. Le plan précis de la première partie. Sur le Verbe éternel, le prologue de Jean, vous disais-je, qui va nous occuper pas mal, je vais faire une première lecture en vous donnant quelques petits repères. Les images vont défiler. Peut-être que vous avez même sûrement vu sur le site, j'ai mis les textes. Parce que j'utilise une traduction. Vous savez qu'il y a toujours des problèmes de traduction, hein, surtout dans des textes aussi précis que celui-ci. Donc, j'ai mis une traduction, c'est celle de l'AELF, c'est-à-dire l'Association épiscopale de la liturgie en langue française, celle que vous entendez le dimanche. Bon, il y a deux ou trois mots sur lesquels je vais buter un peu, mais en gros, cette traduction a été faite pour être entendue, proclamée, en respectant la poésie des textes, hein. C'est ce que vous avez le dimanche. Donc, j'ai choisi cette traduction. C'est pour ça que je vous ai mis le texte sur le site, parce que si des fois vous ouvrez votre propre Bible, prologue de Jean, c'est-à-dire chapitre 1, verset 1, vous trouverez des différences de traduction. Je vais en indiquer quelques-unes, hein, mais on ne va pas faire un travail d'érudition. Et donc là, je vais faire une première lecture avec des images qui viennent éclairer le propos. En fait, je vais juste vous donner des indices et des repères. Ça va vous permettre de repérer à cette première lecture, par exemple, les répétitions lexicales, c'est-à-dire des mots qui reviennent, parfois même d'une manière intempestive, dans la même phrase. Vous savez, un professeur de français trouverait que c'est fort mal écrit, parce que vous allez voir, il y a des répétitions, ça a toujours évidemment beaucoup de sens. Combien de fois les choses sont répétées? Donc voilà, je vais vous donner un certain nombre de signaux comme ça qui vont équiper cette première lecture assez attentive. Ensuite, je vous expliquerai les deux techniques que Jean utilise pour animer, pour écrire ce texte, qui est en fait un véritable morceau de poésie rabbinique. Et puis, on ira voir, je ferai une méditation un peu amplifiée sur le verset 1. Et puis je ferai une seconde lecture où on mettra en place les deux techniques rabbiniques. Ce sera assez simple. Voilà, c'est parti. Alors, lisons le texte. Là, je vous le mets, vous voyez, tel qu'il va se donner à la fin de mes explications. Alors, vous voyez que ce n'est pas tout à fait linéaire comme vous l'avez, vous, sur une Bible, mais j'ai fait des décrochages. Parce qu'il y a des choses qui se répondent en bas et tout en haut. Ensuite, vous avez une partie que j'ai décrochée légèrement, il y eut un homme envoyé par Dieu, qui répond à la partie l'avant-dernière, Jean le Baptiste. Puis ensuite, le Verbe était la vraie lumière, qui correspond à, et le Verbe s'est fait chair. Ouais, voilà, vous comprenez, c'est ça. C'est une manière de vous donner un premier indice. Mais là, pratiquement, je vous donne le résultat du travail avant d'avoir fait le travail. Alors, on va le faire ensemble. Donc, je lis, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et il était au commencement auprès de Dieu. Bon, vous avez bien repéré un paquet de répétitions. Déjà là, probablement, avez-vous remarqué...
On a une image à l'écran, c'est normal.
Oui.
Ah d'accord, c'est pas le texte.
Ça illustre okay. Ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire le Verbe était auprès de Dieu. Vous voyez, les images complètent ce que je dis. Donc ça, c'est le premier verset. Je continue. C'est par lui que tout est advenu. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Bon, là, c'est trop facile. Hein. Vous avez évidemment tout repéré. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde est advenu, mais le monde ne l'a pas reconnu. Vous voyez, je mets à chaque fois qu'il y a des répétitions, vous voyez, je multiplie les petits cercles là. Vous avez bien repéré tout ça. Il est venu chez lui. Ah oui, ça c'est, je relève le verbe advenir. Je vais vous expliquer. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà, il est venu chez lui, pardon, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de vérité et de grâce. Jean le Baptiste, tiens le revoilà, lui rend témoignage en proclamant, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Bon, voilà, vous voyez, je vous ai vraiment mâché le travail avec, vous avez vu, hein, un très grand nombre de répétitions, des choses, quand elles sont importantes, qui se répètent trois fois, donc vous en avez vu un certain nombre, et on va voir que tout ça marche parce qu'il y a mise en œuvre deux techniques d'écriture poétique qu'utilisent les rabbins. Alors, je vais vous les expliquer les unes après les autres et ensuite on ira relire le texte. Mais vous avez déjà repéré pas mal de choses. La façon dont j'ai mis en scène ce texte vous a rendu manifeste les répétitions, et c'est incontestablement le style de Jean. Le style de Saint Jean, quand vous regardez l'ensemble de l'évangile de Jean, il se répète beaucoup. Son lexique revient souvent. Il aime beaucoup les triades. Par exemple, vous en avez entendu une ce dimanche, pour ceux qui ont écouté la liturgie, c'est « Je ne le connaissais pas ». Vous l'avez repéré, ça ? Trois fois, il dit, premièrement, il dit « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Et ensuite, il répète lui-même « Je ne le connaissais pas ». Trois fois, vous avez ce thème de l'inconnaissance. Pourquoi ? Trois fois dans l'évangile de Jean, il est question de Jésus comme agneau de Dieu. Vous l'avez entendu deux fois ce dimanche, et il y aura une troisième fois dans la dernière semaine du Christ. Bref, c'est évidemment une ruse, une méthode chez lui, hein, de la répétition. Le nombre chez Saint Jean importe énormément. Par exemple, peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'avez repéré, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, mais chez Jean, il y a très peu de miracles. Il y en a 7. Comme il y a les 7 premiers jours de l'Évangile. Et il y aura les 7 derniers jours de l'Évangile, la Semaine Sainte. De même, il y a 7 discours du Christ dans Jean, etc. Donc, vous voyez, Saint Jean aime beaucoup ce genre de truc. Alors ça, c'est sa caractéristique. Pour le reste, pour les deux techniques rabbiniques que nous allons voir, ces répétitions, ces cadences, etc., eh bien, c'est une technique qui est très propre au peuple juif et qui consiste, en fait, à écrire un texte de manière à ce qu'il soit quasiment possible de le chanter, de le slammer. Vous voyez, aujourd'hui, des slameurs serait enchanté avec un texte comme ça. Il est écrit pour ça. Voyez, il est écrit pour pratiquement pour danser. Peut-être que vous avez vu, vous savez, le long du mur de Jérusalem, vous voyez très souvent des images de pieux juifs qui prient devant le mur. Et ils prient en oscillant, vous savez, en ayant un mouvement d'avant, d'arrière. Eh bien, ça, c'est une méthode rabbinique pour apprendre, pour mémoriser. On mémorise aussi avec le corps. Et donc, tous ces rythmes qu'on va retrouver dans Saint Jean, ce n'est pas étonnant, c'est fait pour être appris. Et pour que ça rentre, si vous voulez, dans les habitudes, dans les mémoires, voire même dans les mémoires sensibles. Il y a dans cette écriture, donc, la mise en œuvre de deux techniques. D'abord, ah oui, j'aurais dû mettre cette image dans le commentaire que je viens de faire, avec les répétitions, et par lui, avec lui, en lui. Témoin, 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 lumière, 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 monde, 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 vie, 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 Saint Jean-Baptiste deux fois. OK ? Ça, vous l'avez bien repéré. Les deux techniques, les voilà. Alors, c'est évidemment une manière d'imager. La première technique, c'est le tressage. C'est-à-dire que vous avez 3 idées, ou 2, ou 4, et vous allez les tresser l'une dans l'autre. Et donc, régulièrement, elles vont revenir dans un ordre différent. Et en fait, c'est les 3 fils qui se nouent, se dénouent sans cesse. Et puis, vous avez une deuxième technique, qui est la technique des poupées russes. C'est quoi ? Eh bien, c'est que le verset 1 correspond au verset 18. C'est ce que je vous ai montré tout de suite, vous savez, quand je vais vous montrer le texte. Le verset 1, disons, correspond. Oui, correspond. Appel, fait écho. Les deux versets se font écho, 1 et 18. Et puis ensuite, vous ouvrez la première poupée, il y en a une autre. C'est le verset 2 et le verset 17 qui vont se faire écho. Vous l'ouvrez, vous allez trouver le verset 3 et le verset 16, etc. C'est la technique des poupées russes. Alors donc, les deux techniques vont être mises en œuvre dans l'évangile, dans le prologue que vous venez d'entendre. Je vous donne, pour bien comprendre, quelques exemples. En voici un, avec la méthode du défilage, de la tresse. Au commencement, alors je l'ai mis exprès, vous voyez, sous cette forme-là, pour que vous voyez bien. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, Il était auprès de Dieu, au commencement. Ah, c'est vraiment très curieux. Hein. Donc, vous avez le mot « commencement », le mot « Dieu », mais pas dans un sens immobile. Et auprès de Dieu, il faudrait traduire, c'est entre le « en dedans » de Dieu et le « vers Dieu ». Si vous voulez, c'est un « en dedans » dynamique. On pourrait dire aussi « avec Dieu ». Mais ils ont préféré « auprès de Dieu », qui s'approche de Dieu. Bon, voilà, c'est le mot « verbe », bien sûr, hein, et les trois sont tressés ensemble. Voilà, donc ça, c'est la technique du tréfilage. C'est évidemment des indices d'importance. C'est parce que c'est tressé ensemble, c'est pour que ce soit très solide, que ce soit bien mémorisé, qu'on apprenne par cœur les formules et qu'on finisse par les comprendre. L'autre technique, celle des poupées russes, j'ai pris le premier verset comme exemple et maintenant je vous prends le dernier verset comme exemple, le verset 18. Donc les poupées russes, vous avez bien compris ce que c'est. Je vous lis, Dieu personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Pourquoi j'ai mis lui qui est dans le sein du Père, lui qui est, la deuxième fois, je l'ai mis entre parenthèses. Eh bien parce que la répétition lui qui est dans la forme liturgique, la traduction que je vous ai proposée, mais elle n'est pas dans le texte grec. Donc, j'ai restitué la sobriété du texte grec. Et c'est assez important parce que du coup, on va pouvoir voir la poupée russe s'animer devant nous. Alors voilà, je vous la montre. Dieu, personne ne l'a vu. Le Fils unique, qui est Dieu, dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et donc, vous voyez, il y a une poupée, la grande, Dieu, personne ne l'a jamais vue et qui l'a fait connaître. Vous voyez, c'est l'idée de l'insaisissabilité, même l'incompréhensibilité de Dieu. Et en fait, comment pouvons-nous connaître quelque chose de Dieu? Par le Christ. C'est lui qui le fait connaître. Ensuite, une fois que vous avez ouvert cette première boîte, vous avez une autre, le Fils unique dans le sein du Père. Donc, je vous ai expliqué auprès de, tourné vers, dans le sein du Père, ici. Mais c'est toujours la même idée, vous savez, une espèce de dynamisme, un dynamisme mutuel, un co-mouvement, une co-attraction. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, ceci dit au passage, mais j'aurai un cours là-dessus, hein, rassurez-vous. Pourquoi appelle-t-on Dieu Père? Eh bien, parce que ça indique, justement, ce mouvement. Et finalement, les juifs, les chrétiens et les musulmans, qui savent bien que Dieu n'a pas de nom, que Dieu n'a pas de nom qui pourrait dire ce qu'il est. Donc, soit on l'appelle Dieu, et les trois monothéistes se sont à peu près entendus pour l'appeler Père, pour bien exprimer ce mouvement. C'est pas un Dieu immobile, retiré dans des lointains horizons, qui recule toujours. Il est dynamique. Donc, le mot père, je vous l'expliquerai une autre fois, hein, qui va toujours avec le mot fils. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a pris. Hein. En un mot, comme on sent, on n'est pas père si on n'a pas d'enfant, et on est toujours le fils de quelqu'un, voilà, être de quelqu'un. Voilà, on commence à voir l'idée de la Trinité, hein, qui pointe, qui est hyper important. Donc, voilà, vous avez vu la technique des poupées russes. Hein. C'est drôlement bien fait, et c'est généralement un très bon moyen pour repérer ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, principal, le plus précieux, c'est ce qui est au centre. Donc ici, vous voyez, G-H-I, c'est I. Ça veut dire quoi? Le Christ est Dieu. Donc voilà. Et donc, quand vous prenez les deux versets, le premier que je viens de vous exposer, le dernier que je viens de vous exposer, eh bien, vous remarquez que eux-mêmes parlent de la même chose. C'est-à-dire eux-mêmes constituent la boîte la plus grande qui va emballer tout le reste. Et tout le reste, en fait, est contenu dans ces deux versets, le premier et le dernier. Il est question à peu près de la même chose, c'est-à-dire de la proximité du Christ vers le Père, dans le Père, auprès du Père. Et c'est la même chose, hein, au début et à la fin. Et donc, ça forme une sorte d'emballage qui emballe, qui enveloppe, qui explique, qui donne la lumière, qui donne la clé pour l'ensemble du prologue. C'est un processus, comme vous le voyez, qui est très construit et évidemment très poétique. Ici, je vous donne quelques repères, mais vous les avez, ça y est, on les a déjà faits, hein, puisqu'on a vu au commencement, répété deux fois, le Verbe, Dieu, dans le dernier, puis commencement, bien sûr, je récapitule ce qu'on a vu, le deuxième, le dernier verset, verset 18. Alors là, il faut peut-être expliquer le verbe « voir », autant en grec qu'en hébreu, veut dire connaître, comprendre. Comme dans l'expression française, « voyez-vous ce dont je parle ?» Vous connaissez bien sûr cette expression. « Je vois bien de quoi il s'agit. » Mais non, on ne voit pas, on comprend. Et donc, en hébreu comme en grec, « voir », c'est en gros « comprendre, connaître ». Voilà. Donc ici, vous avez une répétition formelle. Dieu, personne ne le comprend, c'est lui qui nous le fait comprendre. Dieu, personne ne le connaît, c'est lui qui nous le fait le connaître. Dieu, personne ne l'a jamais vu, c'est lui qui nous fait le voir. Et c'est Saint Jean dira aussi dans une de ses lettres, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc voilà, c'est cette même idée tout à fait importante. Et donc au total, vous voyez, vous avez cette formidable géométrie. Alors j'ai rajouté le verset central. Parce qu'on se demande, bon d'accord, le truc de la poupée russe, bon mais quelle est la poupée la plus petite? Quel est le cœur de ces poupées? Eh bien je vous l'ai mis, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Alors ça c'est absolument formidable, c'est tout l'évangile qui est tenu dans ce verset. Il y a trois verbes. Donner, pouvoir, devenir. C'est-à-dire, être enfant de Dieu, ça nous est donné. Nous en avons la capacité et sans cesse, nous avons à le devenir. Alors, on n'est pas enfant de Dieu le jour où le parrain a signé le registre du baptême. On l'est, mais on ne cesse de le devenir. Mais dans un devenir qui nous est sans cesse confié, il a donné. Et il a donné de pouvoir. Nous pouvons, nous sommes en capacité de devenir enfants de Dieu. Donc c'est à la fois un don, un pouvoir, c'est-à-dire une possibilité qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est un chemin. Voilà, ça c'est formidable, hein, c'est formidable. Vous trouvez également dans l'évangile de Jean cette autre formule qui est très proche de ce que je viens de dire. Quand Jésus dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on les retrouve ici, devenir. Voilà, devenir, je suis le chemin. Il ne dit pas je suis la vérité. C'est trop stable, ça, c'est un truc de philosophe ou de mathématicien. Il ne dit pas non plus je suis la vie. Ça, c'est une sorte de zoomorphisme. Non, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous dissociez l'un des trois, vous perdez la vérité de ce qu'il dit. Donc voilà, c'est pour ça que cette phrase centrale est absolument magnifiquement encadrée par l'ensemble du prologue. Donc voilà, je vous trouverai évidemment tout ça sur le site. Ce que je vous conseille de faire après cette petite visite, après ce cours, hein, eh bien, c'est de refaire l'exercice vous-même. C'est-à-dire de relire avec des crayons de couleur le prologue de Jean et de repérer tous ces trucs-là. Peut-être que vous en trouverez d'autres d'ailleurs. Alors si vous prenez une traduction autre, peut-être que vous aurez d'autres éléments. Bon, moi j'ai pris, disons, la traduction la plus, j'ai corrigé un ou deux trucs, mais c'est en comparaison du texte grec, c'est celle qui est la mieux écrite quand même. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là?
Oui, moi j'en avais une.
Oui.
Simplement sur le, pas sur la forme de l'explication du texte, mais vous disiez que Dieu n'a pas de nom. Et qu'en est-il de Yahvé ?
Alors Yahvé, à proprement parler, c'est pas un nom, c'est-à-dire c'est l'imprononçable. Alors, par exemple, quand un juif copiste écrit le nom de Yahvé, c'est un tétragramme, il y a quatre lettres, sans voyelle, mais ça c'est classique dans l'hébreu, eh bien il lave sa plume après. C'est-à-dire l'encre qui a écrit le nom de Dieu ne peut plus rien écrire d'autre. Donc on lave la plume et on la plonge dans une encre neuve. Donc vous voyez, ils ont beaucoup de scrupules, et quand ils tombent, eux, sur Yahvé, je ne sais pas si vous avez fréquenté des juifs, mais quand ils font la lecture, ils ne lisent jamais Yahvé. Pour lire Yahvé à partir du tétragramme, il suffit de poser les voyelles. C'est un exercice que tous les enfants juifs apprennent à faire. Eh bien, eux, quand ils voient le tétragramme, ils ne disent pas Yahvé. Ils disent Adonai. C'est-à-dire autre chose. C'est incroyable. Hein, c'est-à-dire ils ne veulent pas prononcer le nom de Dieu. Ah, c'est très drôle. Hein, donc voilà, voilà pour répondre à votre question. Ça va, j'ai répondu ?
Oui, oui, tout à fait. Merci.
Voilà. Ou du moins, j'ai amplifié les interrogations.
Elles vont être mûries.
C'est très intéressant comme propos. Alors, d'autres questions peut-être ? Mais on fera plusieurs petites pauses. On va s'attarder sur le premier verset, cette fois-ci en faisant, disons, un petit développement de théologie, mais c'est très simple. Le premier verset, c'est donc « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. » Il est bien question du Verbe éternel, celui qui se fera homme, Jésus-Christ. Il est, en quelque sorte, la parole de Dieu, c'est-à-dire le Verbe de Dieu. Or, cette parole est créatrice, peut-être que vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, on lit au fur et à mesure des jours, hein, vous vous souvenez, il y a 7 jours, Dieu fit ceci, et il vit que cela était bon, il y eut un jour, il y eut une nuit, premier jour. Vous voyez, il y a des refrains comme ça, ça dure 7 fois, et quand dans les 7 jours, on trouve 10 fois l'expression « Dieu dit ». 10 fois sur 7 jours. Donc il y a un jour où il parle 3 fois. Eh bien, c'est le jour où les Juifs se marient, parce que c'est un jour béni, puisque Dieu a parlé 3 fois. Donc, c'est forcément un bon jour, un grand jour. Donc, c'est le jour des mariages dans la coutume juive. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que Dieu dit, c'est l'œuvre créatrice du Logos. Logos, c'est un mot grec qui veut dire verbe, ou qui veut dire aussi intelligence, ou qui veut dire aussi esprit. Bon, voilà. Dieu dit et cela fut. C'est une puissance créatrice de la parole. Eh bien, cette puissance créatrice de la parole, elle est toujours effective. C'est-à-dire, il y a toujours la parole de Dieu qui maintient le monde créé et qui est pour nous créatrice. Alors là, je vous montre par exemple un petit tableau du 19e siècle, un peu romantique, d'une famille protestante qui écoute la lecture de la Bible. Donc, vous avez le grand-père ou le père, enfin, je ne sais pas très bien, qui a pris la Bible, le seul gros livre de la maison, et qui la lit, et tout le monde est très, très attentif. Eh bien, les chrétiens ont toujours cru que lire la parole de Dieu était pour nous créateur, et que c'est les mêmes verbes qui est proclamé dans l'Évangile, quand le prêtre lit l'Évangile ou le diacre lit l'Évangile à la messe, c'est celui qui fit le monde qu'on entend. C'est tout à fait extraordinaire. Et donc le mot logos qui est utilisé ici, qu'on traduit en latin par verbe, se traduit tout aussi bien par parole. La parole créatrice de Dieu est encore efficace et elle crée. Et donc, nous, elle nous recrée, elle crée en nous l'être chrétien. Mais ici, et comme dans toute la tradition iconographique, ici, on est à Palerme. Hein. Quand on représente le Créateur, comme il crée par sa parole, eh bien, on représente le Christ. le Christ tel qu'il est représenté dans la tradition iconographique, c'est-à-dire avec un nimbe, vous voyez une auréole, vous le voyez là, cruciforme, c'est-à-dire avec une croix inscrite dans l'auréole. C'est comme ça qu'on reconnaît le Christ, hein. C'est un repère classique, hein, dans l'iconographie byzantine occidentale. On reconnaît le Christ au milieu des apôtres, on reconnaît toujours à ce signe-là. Et donc là, ils ont tellement bien compris ce que je viens de dire, quand Dieu dit, eh bien ce dit de Dieu qui fait le monde, c'est celui qui va prendre chair, c'est celui qui est Jésus de Nazareth, et donc il le représente ici dans un récit de la création. Ici, vous savez, ça doit être le premier jour quand Dieu sépare le jour et la nuit, ou plutôt c'est le second jour quand il met les étoiles et les astres pour donner un calendrier. Donc voilà. Quand il dit, autre point de réflexion, quand dans le verset que je viens de vous lire, Genèse chapitre 1, et pourquoi je vous parle de Genèse chapitre 1 au fait ? Eh bien, c'est parce que ça commence par le même mot. Et Saint Jean l'a fait exprès, bien sûr. Bereshit en hébreu, Enarché en grec, au commencement en français. Or, le mot commencement, lui-même, est un abîme de perplexité pour tout le monde, hein. C'est-à-dire pas uniquement pour les croyants ou pour les théologiens, mais pour les scientifiques. Il y avait quoi avant ? Avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait ? Pourquoi les choses ont-elles commencé ? Est-ce qu'elles ont vraiment commencé ? Et c'est des vraies questions. Alors ça, c'est drôle parce que toutes les religions du monde s'interrogent là-dessus. Et tous les systèmes philosophiques aussi, de la pensée grecque jusqu'à Heidegger. Heidegger qui rappelle le bon mot de Spinoza, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi y a-t-il quelque chose ? Voilà. Et ben, c'est le mot au commencement. Et ça, moi, je suis persuadé que le rédacteur de la Bible, inspiré bien sûr, hein, s'il a mis ce mot comme premier de l'Écriture sainte, c'est parce que c'est le mot qui soulève le plus d'interrogations d'une manière universelle. Ce n'est pas le mot Dieu. Alors, il y a une autre grande question, hein, qui traverse tout l'univers entier. C'est le mal. C'est la question du mal. Mais la question du commencement est quelque chose qui est absolument fascinant, hein. En tout cas, le premier mot du prologue que nous venons de lire, est bel et bien, tout aussi abyssal, bien sûr, Enarché. Alors, il y a un autre évangéliste, hein, qui a bien remarqué ça, c'est saint Marc, qui lui aussi commence son évangile par le mot Enarché. Donc voilà, vous voyez, c'est énorme, hein, la question qu'il y a. Au commencement, donc, ou avant que ça ne commence, enfin bref, il y avait, ou pendant que ça commençait, il y avait le Verbe, la parole, et elle circulait en Dieu, elle est Dieu en tant qu'il crée, en tant qu'il pense. Il y a, dans l'Ancien Testament, un texte qui fait un peu penser à ça, et qui est la méditation d'un philosophe qui réfléchit à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la parole circule en Dieu, et qu'elle est Dieu en tant que créateur. Je vous le lis, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, versets 23 et suivants. Donc ça, vous le retrouverez facilement. Le livre des Proverbes, c'est un livre qui est une compilation, disons, philosophico-religieuse, philosophico-spirituelle, mélangeant la mentalité grecque et la mentalité hébraïque. C'est un texte très intéressant. Quand je dis compilation, ça, probablement, elle est achevée au IVe siècle. Je vous lis ce texte et vous allez voir comme c'est beau, hein. Il fait parler le Verbe lui-même, le Logos lui-même, sauf qu'il ne l'appelle pas Logos, enfin là, il l'appelle Sophia. Sophia. Sophie, comme dans philosophie, c'est-à-dire sagesse. Donc, je vous le lis, « Avant les siècles, j'ai été formé. Dès le commencement, Avant l'apparition de la terre, quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde, quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs, qu'il maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, j'étais là. Et moi, je grandissais à ses côtés, je faisais ses délices jour après jour, louant devant lui à tout moment, louant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. C'est absolument, d'abord c'est très beau comme texte, hein. C'est une espèce d'intuition, de méditation philosophique de quelqu'un qui réfléchit au Verbe éternel de Dieu et qui en fait presque une personnalité. Vous voyez, on n'est pas encore dans la théologie trinitaire, mais pas loin. Pas loin, hein, c'est avec cette sagesse. Alors la chute est extraordinaire. Hein. On nous dit au verset 30, « Je faisais ses délices à Dieu jour après jour » et le même mot est utilisé pour dire que je trouve mes délices avec les fils des hommes, comme si nous étions capables de Dieu. Donc voilà, ça c'est un très grand texte. Je vous mets les anges musiciens comme illustration, parce que je n'ai pas trouvé mieux. Comment montrer la sagesse de Dieu, la sagesse créatrice? Alors, je vais faire maintenant une deuxième lecture.
Pardon?
Oui. Oui.
Non, c'était pour rappeler les références, je n'ai pas bien noté.
Alors, c'est le livre des Proverbes.
Du livre des Proverbes, c'est à quel on...
Proverbes, oui. Dans l'Ancien Testament, chapitre 8,
oui.
Versets 23 à 31.
Est-ce que je peux me permettre de poser une question?
Ah oui, oui, oui.
En fait, je pense que je me trompais, ou je pense peut-être que je ne me trompe pas. Moi, j'avais simplifié le verbe en pensant que c'était l'expression qui regroupait l'Ancien Testament, puisque en attendant la venue de Jésus, nous étions liés à des écritures, qui donner forme et qui annonçait la naissance de Jésus. Et pour moi, j'avais simplifié ça. C'était complètement faux ou pas,
hein? Non, c'est pas complètement faux, mais c'est trop simple. C'est-à-dire le verbe éternel de Dieu existe encore, par exemple, dans la lecture de la liturgie, pendant la liturgie. C'est bel et bien le verbe éternel de Dieu qui est là. Quand des théologiens réfléchissent sur le contenu de la théologie, c'est également une mise en œuvre du verbe éternel de Dieu. Et c'est donc bien ce verbe-là qui s'est fait Jésus de Nazareth et qui se fait Eucharistie.
Donc en fait, dès qu'il y a des écrits, il y a verbe, on peut dire ça?
Non, parce
qu'il
il était verbe même quand il n'écrivait pas. Par exemple, quand il parlait. Quand Dieu dit et cela fut, il n'écrit pas.
Oui.
Voilà.
Merci.
Voilà, c'est très intéressant comme thème, hein, ce thème du logos éternel, quoi. Alors, on va faire cette seconde lecture avec quelques idées nouvelles et puis quelques petites répétitions. Donc voilà, je vous mets le repère parce que la première chose, quand on lit ce texte, qui nous surprend, c'est qu'il parle de Saint Jean Baptiste, hein, son cousin, enfin le cousin de Jésus, et il y revient ensuite. On se dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne parle pas de Jean-Baptiste? Et puis voilà, quoi. Et donc, vous voyez, ça met la puce à l'oreille. Et donc, c'est la première chose qu'il faut repérer, c'est, curieusement, on voit une sorte de redite, de répétition, comme s'il n'avait pas fini de dire ce qu'il avait à dire, et il revient sur Jean-Baptiste. Et c'est donc l'indice qui a permis, le premier qui a fait ce type d'étude, hein, que je vous présente là, c'est Jean Kowalski, c'est un exégète du XXe siècle, et qui est un spécialiste de l'écriture hébraïque, et qui, alors que c'est en, alors ça, c'est écrit en grec pourtant, mais ce sont des gens qui sont pétris de culture juive. Et donc, ils mettent en œuvre des règles de poétique juive. Donc voilà, donc je me sers entièrement de théories de Jean Kowalski. Donc on repère ça, et puis après, une fois qu'on a repéré Jean-Baptiste, on repère le verset central. Ça, je vous en ai déjà parlé, absolument magnifique. Il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Et lui-même est enveloppé par une équivalence à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. C'est la même chose. Recevoir Jésus, recevoir le Logos, croire en son nom, c'est la même chose. Donc là, vous avez une partie centrale, je l'ai bordée en rouge, et puis deux parties équivalentes, je les ai bordées en vert. Voici le détail du centre, du verset central, Tres et Couperus. Vous avez dans la Tres, vous avez les thèmes de l'enfantement, de la parenté, j'ai mis en bleu, c'est chez lui, les siens, naître, ils sont nés, enfants de Dieu. Vous voyez, il y a ce thème-là, c'est un premier thème. Ensuite, il y a recevoir, que j'ai mis en vert. Donc ça, vous avez cette tresse avec ces trois thèmes, et puis vous avez la poupée russe avec la mise en forme que je viens de vous mettre sous les yeux, c'est-à-dire il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, qui correspond aux trois lignes dernières. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. C'est donc cette espèce de consanguinité, pourrait-on dire, dont il est question, qui emboîte le centre, mais à tous ceux qui l'ont reçu, eux qui croient en son nom. Et puis le verset central, dont je vous ai déjà parlé. Donc vous voyez comment les deux techniques ici sont mises en œuvre.
Je peux poser une question ?
Oui, oui.
Sur la page précédente.
Oui.
En fait, moi, effectivement, dans la traduction de la Bible de Jérusalem que j'ai, il y a une différence majeure dans la traduction. On a évoqué que ça pouvait varier en début de réunion. Et en fait, ce n'est pas mis au pluriel, c'est mis au singulier. Et donc, ça change tout à fait le sens de la phrase parce que du coup, c'est le verbe qui s'est fait chair, qui n'est pas né du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Il est né de Dieu. Or là, c'est « ce » et c'est « nous ». Que ça désigne enfant. Et donc, j'ai trouvé que c'était plus fort presque en lisant le texte au pluriel, parce que je me suis projetée et on voit là l'étincelle de la volonté divine dans la création de chaque être humain. Mais c'est une différence qui m'a semblé importante.
Oui, elle est sacrément importante. Alors, ils doivent la justifier, certainement. Alors, en grec, je n'ai pas le texte grec sous les yeux, parce qu'en grec, c'est très net, si c'est un pluriel ou un singulier.
Et dans les petites annotations de la Bible, toutefois, de Jérusalem que j'ai, qui est celle-ci, là, qu'est-ce qu'il mettait ? J'ai vu qu'il y a des petites annotations de renvoi au texte, et il mettait, tac, tac, tac. La leçon, c'est le verset 13, la leçon couramment admise est au pluriel.
Voilà.
Mais néanmoins, dans le texte, ils l'ont mis au singulier.
Bon, donc, ils sont honnêtes, vous voyez, ils disent que le grec donne le pluriel. Mais c'est probablement parce qu'ils n'ont pas compris cette forme. Vous voyez, Kowalski n'a pas fait partie des traducteurs de la Bible de Jérusalem. Il a travaillé plutôt avec Ostie Trinquet. Et donc, tout simplement, ils n'ont pas repéré cette forme. Parce que quand vous repérez cette forme, évidemment, vous êtes obligé de garder le pluriel. Parce qu'il y a vraiment un axe pivot, là. Il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Mais à qui ? À nous, donc au pluriel.
Okay. Voilà, c'est important.
Mais comme quoi, c'est tout. Moi, vous savez, quand je fais une homélie, par exemple, le dimanche, je l'ai encore fait dimanche dernier, avec ces expressions de Saint Jean-Baptiste, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai été vérifier quel était le verbe grec pour connaître. Voilà, donc, à chaque fois, vous voyez, je vérifie les trucs comme ça.
Et c'était lequel, du coup, parce que vous disiez que c'était voir tout à l'heure, c'était le même. Moi, ça m'a fait penser à Avatar, je te vois dans le film.
Oui, très bien.
Tout le temps. Donc, je te connais. Mais...
Voilà. Bon, continuons. Alors, voilà, vous avez les signaux du centre. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, je vous dis, faites l'exercice par vous-même, ça vous donnera encore plus d'impression de comprendre. J'ai mis donc là en jaune, je ne sais pas si ça apparaît bien sur vos écrans, enfin jaune ocre, la lumière, le thème de la lumière. Et il était la lumière brille dans les ténèbres, il était venu pour rendre témoignage à la lumière, cet homme n'était pas la lumière, rendre témoignage à la lumière, répété deux fois, le verbe était la vraie lumière, encore que j'aurais dû mettre également en jaune, qui éclaire. Bon, vous voyez, tous les thèmes autour de la lumière. Ensuite, je mets en bleu tout ce qui est advenu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, c'est ce que propose la traduction liturgique. Moi, je préfère advenu, c'est que tout est advenu et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui, et le monde est advenu par lui. Bon, ça, c'est facile à repérer. Ensuite, je mets en vert pâle, j'espère que vous arrivez à le voir, tout ce qui est réception, tout ce qui est le fait de recevoir et qui transforme. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, ils ont vu sa gloire, ils ont part à sa plénitude, grâce et vérité sont venus. Dieu, jamais personne ne l'a vu, mais lui, il nous l'a fait connaître. Vous voyez, c'est tout ce qui est progression dans la connaissance. Je vous mets en souligné tout ce qui est idée de venir au monde, incarnation si vous voulez. Donc la lumière brille dans les ténèbres, donc il y a ce mouvement d'incarnation qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, il est venu chez lui, alors ça c'est formidable, il est venu chez lui. Donc le monde, vous voyez, quand il vient chez nous, il est chez lui. C'est formidable, ça, vous voyez, ça ne peut plus nous faire désespérer du monde. Voilà, c'est extraordinaire. Ensuite, il s'est fait chair, bon, bien, archi connu celle-ci, mais il a habité parmi nous. Magnifique comme expression. Là aussi, Saint Jean-Baptiste dit « au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Il est au milieu de nous. Alors, ça peut se traduire aussi « en dedans de nous » ou « avec nous ». Il a habité parmi nous. Donc voilà, encore un thème qu'on repère, hein. Ça c'est du tréfilage, et c'est des thèmes qu'on repère. Ensuite, j'ai mis là les termes négatifs, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, mais le monde ne l'a pas reconnu, les siens ne l'ont pas reçu. Et à l'inverse, dans la seconde partie, on voit qu'il y a moins de négatifs, c'est plus positif. Nous avons vu sa gloire, nous aurons part à sa plénitude, etc. Et donc, vous savez, ce tressage multiple, j'aurais dû mettre même une marqueterie en bois précieux, on voit des thèmes qui se dégagent sans cesse. Et alors, moi, je vous propose ça, c'est-à-dire de voir dans la première partie, il y en a trois, là, il y a le noyau dur, le centre. Il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Bon, très bien, on commence à comprendre. La première partie, c'est tout ce qui touche à la création. Par lui, le monde est advenu. Et la seconde partie, c'est plutôt tout ce qui est vision, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes destinés. Le thème de la connaissance, les visions, connaissance, plénitude de l'être, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et de même, vous repérez l'évolution du thème distance et proximité du verbe. Au début, il est tourné vers Dieu. Puis il visite les ténèbres, puis il vient dans le monde, puis il vient chez lui. Vous voyez, il est de plus en plus proche. Hein. Et enfin, parmi nous. Et dans le prologue, vous avez cette espèce d'escalade de la proximité jusqu'à le connaître, c'est-à-dire avoir part à sa plénitude. Voilà, c'est formidable hein, comme progression. Hein. Bon, donc, voilà, inutile de pousser plus loin, on a déjà pas mal vu bien ce grand morceau qu'est le prologue de Jean. Et donc, je vous invite à faire ce petit exercice. Vous le prenez sur une feuille sans les repères, là, je crois que je vous ai donné une feuille comme ça, et vous crayonnez avec des crayons de couleur, et vous allez voir, vous allez trouver plein de trucs. Puis, de toute façon, tout ça, ce sera déposé sur, vous pouvez le réécouter, ce sera déposé sur... sur le site. Ça va ?
Petite question.
Oui.
Est-ce que c'est possible ?
Oui.
Alors, dans un verset, il parle, il met en parallèle la lumière et la vie.
Oui.
Alors, comment comprendre cette symétrie ou ce parallélisme ou cette identité comment vous comprenez ces deux mots?
Alors, lumière, c'est évidemment lumière, ténèbres, c'est une expression très biblique. Les ténèbres, c'est le shéol, c'est la non-vie. Et alors, en effet, vous savez, si on veut faire du concordisme, c'est-à-dire si on veut essayer de trouver là des espèces d'intuitions pré-scientifiques, on suppose bien, en effet, que la vie vient de la photosynthèse. Bon, mais ça, vous savez, je pense que c'est une intuition toute bête du poète qui était Jean et qui était le rédacteur de la Bible, parce qu'on en trouve plein de cette race-là dans l'Ancien Testament, qui comprend qu'il y a plus de vie par la lumière et il y a moins de vie dans les ténèbres. Donc voilà, il suffit d'aller au fond d'une grotte. Mais vous savez que maintenant qu'on a exploré le fond des océans, on a découvert des choses très étonnantes dans le fond des océans où il n'y a pas de lumière. Hein. Bon, donc voilà, ça c'est des... Mais en effet, du point de vue existentiel, l'Évangile préfère toujours la lumière, comme symbole, évidemment, comme symbole de connaissance, comme symbole de vérité. Et la lumière se donne en partage. Elle éclaire tout homme.
C'est beau, très bien, oui, ça me répond. Deuxième petite question, oui. Sur l'image que vous avez précédemment. Il y a un personnage qui tient un compas.
Oui.
Alors là, voir arriver un compas, ça me surprend.
Oui, oui, oui. C'est une grande enluminure du XIIIe siècle, archi connue. C'est l'idée. Alors bon, c'est une grande théorie néoplatonicienne et pythagoricienne. C'est l'idée selon laquelle le monde tient par des lois éternelles qui sont des lois mathématiques. Qui ont été créés, donnés par le Créateur. Et le christianisme a toujours été avide de retrouver ces lois mathématiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le met avec un compas.
Oh ben c'est très, très belle explication, merci.
Voilà, alors on peut continuer si vous voulez. Alors avec Genèse 1, puisqu'on l'a cité, hein, on a cité Genèse 1, à propos de Bereshit, au commencement, eh ben, il faut aller voir ce verset parce qu'on va y trouver une petite merveille, une petite pépite. Vous le connaissez, ce verset, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » Il n'y a encore rien. Dieu n'a pas encore parlé. Et il y a un bonhomme qui est extraordinaire, qui est Saint Justin. Il va beaucoup méditer ce verset et qui va donner à l'Église un patrimoine d'intelligence qu'on n'aurait jamais dû perdre. Il réfléchit aux autres religions. Il réfléchit au paganisme. Et il se dit, il y a dans toutes les religions des germes de vérité. Il y a chez les philosophes des germes de vérité. Il y a chez les Inuits, s'ils ne connaissaient pas, mais enfin on peut augmenter son propos, en disant il y a chez les Inuits qui ne connaissent absolument pas ni Dieu, ils n'ont pas de théisme, ils n'ont pas de monothéisme, ils n'ont pas de Jésus-Christ. Eh bien, il y a quand même chez eux des germes de vérité. Et pourquoi dit-il ça? À cause du verset que je viens de vous lire. Alors, c'est ça que je voudrais expliquer. Justin est né en Palestine, il est philosophe, il est né, il est mort en 165, ça on en est sûr, mais on ne sait pas très bien s'il est né. On suppose que, comme tout le monde, il est né, mais on ne sait pas quand. Bon, disons, peut-être dans les années 100. Bon, voilà, pour lui donner un âge... qui lui permet de faire carrière dans son métier, qui était prof de philo. À 30 ans, il devient chrétien. Et donc, il est évidemment appelé, un prof de philo qui devient chrétien, il est appelé à enseigner par l'Église, d'abord à Éphèse. À Éphèse, il y a un grand centre intellectuel de philosophes. Ce n'est pas pour rien que saint Jean a été vivre à Éphèse. Et puis ensuite, on l'appelle à Rome, là où s'était créée une université toute petite et toute jeune. Et c'est là qu'il va mourir martyr lors des persécutions de Marc Aurèle, un autre philosophe, comme c'est malheureux, cette histoire-là. Marc Aurèle était stoïcien, mais c'est un philosophe aussi. Donc, le verset, vous le connaissez par cœur, mais je relis avec cette image. Au commencement, et l'image va peut-être vous donner à comprendre ce que Justin va méditer. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y a pas encore la lumière. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Eh bien, c'est pour ça que j'ai trouvé cette image de ce tableau de Soulages, qui est à Rodez. Et vous voyez, on voit la surface des ténèbres s'irisée. Vous voyez, comme s'il y avait un souffle dessus. Eh bien, pour moi, c'est une excellente illustration de ce qui précède le premier jour de la création. On est Genèse, chapitre 1, verset 1. On n'a pas beaucoup avancé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là et quelle est la méditation de Justin ? Eh bien, il dit, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Mais planer, le mot hébreu, ce n'est pas planer. Alors, pourquoi a-t-on traduit par planer ? Parce qu'on a traduit, du point de vue iconographique, le souffle de Dieu par un oiseau, assez habituellement. Et donc, un oiseau, ça plane. Voilà, donc, vous voyez, mais le mot qui est utilisé, c'est couvrir. Le souffle de Dieu couvrait, mais couvrir comme un étalon couvre une jument. C'est-à-dire féconder. Et donc, il faut comprendre le souffle de Dieu, le respire de Dieu, la pensée de Dieu, le logos de Dieu féconde l'informe avant de lui donner forme. À moins qu'il ne féconde l'informe pour lui donner forme et pour y faire pénétrer les semences du Verbe. Alors Justin, et on ne peut plus explicite, il appelle ça le logos spermaticos. Et c'est on ne peut plus explicite. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir pensé ça, parce que ça veut donc dire que tous, avant la révélation de Dieu au peuple juif, puis du Christ aux chrétiens, tous, et même la matière, à part d'une certaine manière, aux semences du Verbe. C'est extraordinaire comme vision. Et bien cette vision a duré pratiquement dans l'histoire de l'Église jusqu'au XIIIe siècle. Alors je vais vous montrer une image. C'est donc un détail du livre de la Genèse, mais extraordinaire, extraordinaire. Les Juifs ont beaucoup médité là-dessus, Justin a beaucoup médité, et l'Église était d'accord avec Justin jusqu'au XIIIe siècle. On s'est beaucoup durci, vous voyez, quand on a découvert des peuples complètement pas européens au moment des grandes découvertes. Et là, il y a eu un phénomène de durcissement, et c'est là où on a diabolisé ce qui n'était pas nous. Parce que c'était tellement étranger, et bien Justin, lui, il aurait dit, mais pensez pas du tout, il y a des semences de la vérité, dans le chamanisme, dans l'animisme, vous voyez, dans ces trucs-là, il y a des semences de vérité. C'est formidable de penser comme ça. On n'aurait jamais dû cesser de penser comme ça. Et donc, on va aller voir comment ça s'est traduit en iconographie, on y est très sensible au XIIe siècle, la mosaïque qu'on va aller voir. Vous voyez, je vous mets on va aller visiter Venise à partir de maintenant. Et donc ça, c'est Saint-Marc de Venise, vous voyez, c'est une croix grecque. Une croix grecque, ça veut dire les quatre bras de la croix sont égaux, puis enveloppés côté ouest d'une sorte de narthex, de couloir, si vous voulez, de sas. Et la photo suivante, vous voyez, elle est prise là où j'ai marqué photo suivante. elle est prise dans cet axe-là. Donc, vous allez voir le narthex dans toute sa longueur, et ça va nous donner la possibilité d'aller voir la première coupole qui est tout au fond du narthex par laquelle, en fait, on rentre dans l'église. Donc, voilà la photo. Et tout au fond, les gens rentrent par la droite. Ils sont à la droite, c'est la place Saint-Marc. Ils passent sous la coupole que je vais vous montrer et ils rentrent dans l'église. Et là, c'est le narthex dans toute sa longueur. Et la coupole, la voici. On passe là-dessous. C'est une petite coupole, hein, elle fait 7 mètres de diamètre. Et regardez bien, en fait, c'est la création. Vous avez toujours le personnage de Jésus. En fait, on a compris maintenant, c'est le Logos créateur. On le voit avec son nimbe cruciforme. Alors, vous voyez, il fait les animaux, il fait les œufs, les poissons dans l'océan. Enfin, vous le voyez, là, on voit tout ça, on voit les détails. En bas, il fait Adam et Ève. On mélange les deux récits de la Genèse, Genèse 1 et Genèse 2. Alors, avec la côte d'Adam, enfin, vous voyez tous les trucs. Hein. Et puis, vous voyez des petites silhouettes comme des anges vêtus en blanc. Eh bien, c'est juste les jours. Donc là, en face de nous, il y a le cinquième jour, parce qu'il y a cinq petits bonhommes habillés en blanc. Et tout en haut, on a le premier jour, parce qu'il n'y a qu'un seul petit bonhomme en blanc. Le premier jour, c'est quand il crée les ténèbres et la lumière. Mais avant le premier jour, l'esprit planait sur les eaux. Eh bien, ils ne l'ont pas raté. Hein. Et donc, ils ont fait l'esprit, mais en quelque sorte, ils communiquent. Il n'y a pas encore les ténèbres et la lumière, hein. Mais il communique quelque chose de lui-même au flot, et à la bouillasse primordiale, comme aurait dit Hubert Reeves. Les plus anciens d'entre vous connaissent Gast, un astrophysicien canadien, très bon vulgarisateur. Et il appelait ça la bouillasse primordiale, avant qu'il y ait de l'ordre. Eh bien, Justin dit, et la Bible dit, que l'esprit déjà, le logos déjà, partage quelque chose de lui-même. Il irise la surface de la bouillasse primordiale. C'est remarquable hein, comme idée. Donc voilà, ça c'est une très grande idée que je voulais vous signaler parce que bah, elle est super belle, elle est très positive et encore une fois, on n'aurait jamais dû la perdre. Ça fait penser hein, tout ça avec cette puissance séminale de l'esprit, du logos, ça fait penser à Teilhard de Chardin, pour ceux qui connaissent un peu, qui anime toute chose grâce à ces semences du verbe, qui anime toute chose vers leur destinée, que Teilhard de Chardin appelle le Christ oméga et que saint Augustin appelle le Christ total. C'est la même idée, alors ça je vous le signale par curiosité, parce que là, on est sous influence de Byzance, hein, à Venise, mais ça existe chez nous aussi. Par exemple, ici, vous avez le tympan de Chartres, mais pas celui du centre. Celui du centre, c'est un Christ pantocrator avec les quatre symboles évangéliques. Là, on est sur celui de droite, c'est-à-dire celui par lequel on rentre dans l'Église. Et c'est une nativité, c'est un cycle, plus exactement, de la nativité. Vous avez tout en bas une crèche, étrange crèche, vous voyez. Vous avez Marie comme dans une boîte et Jésus posé dessus. En fait, c'est un autel. Un autel là où on célèbre la messe. C'est génial. C'est une très grande théologie de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le Verbe qui se fait chair. Et puis autour, vous avez juste à gauche de cet autel, vous avez l'Annonciation, vous voyez un petit ange, la Vierge Marie, la Visitation, Saint Joseph, qui a la main posée sur l'autel, et puis on reconnaît des bergers. Mais tout autour, il y a des personnages qui assistent à la nativité et qui prennent des notes. Regardez à gauche et à droite. Eh bien, figurez-vous que quand on a sculpté ça au XIIe siècle, on voyait là les philosophes de l'Antiquité grecque. Et donc, il y a Pythagore, il y a Platon, il y a Aristote, et ils sont à la nativité. Ils encadrent la crèche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'au XIIe siècle encore, on est persuadé que l'intelligence d'Aristote est, d'une certaine manière, quelque chose qui répond aux semences du verbe. On est sûr que l'intelligence de Pythagore qu'a créé la première musique des harmonies, la première règle des harmonies musicales. Vous voyez, c'est celui avec les cloches là. Il a des petites cloches sur lesquelles il frappe. Eh bien, on est persuadé que s'il a eu cette intelligence-là, c'est parce qu'il participe lui aussi aux semences du verbe. Donc voilà, idée formidable. Donc voilà. Allez, on avance et on va faire du tourisme maintenant pour se reposer dans la dernière.
J'ai juste une question.
Oui.
Que fait Marie dans la représentation là? Que fait Marie sous l'autel? Pourquoi elle est représentée sous l'autel?
Eh bien, parce qu'elle est fatiguée de l'enfantement.
D'accord.
Et donc, elle se repose. Vous voyez, dans l'iconographie byzantine, très souvent, on représente Marie allongée, alors que chez nous, en Occident, on préfère la représenter assise et présentant son petit. Vous savez, la Vierge, ça on le verra, j'aurai un cours hein, sur les différentes images de la Vierge Marie. Mais on est sous influence byzantine, là encore. Très belle théologie. Hein.
Merci.
C'est pas tellement la théologie, c'est pas tellement que la Vierge soit couchée, c'est que le Christ soit sur l'autel. Donc l'Eucharistie égale incarnation. Le Verbe se fait chair et il a habité parmi nous. C'est l'Eucharistie. Waouh, c'est génial ça. On n'aurait jamais dû oublier ça.
Excusez-moi, quand vous dites le Christ est sur l'autel, moi je vois pas très bien.
Alors si le petit A là, vous savez?
On est sur la troisième partie, la partie basse de...
Oui, la première partie.
La première ligne.
Voilà.
OK.
Vous avez les petits moutons à droite avec les bergers.
OK.
Marie, donc, sous l'autel. Un autel, très clairement, même, il y a même des nappes. Et dessus, vous avez dans un couffin le petit Jésus.
OK, merci.
Et le même, d'ailleurs, est posé au-dessus, à nouveau sur un autel. Mais alors, cette fois-ci, c'est complètement incongru. Mmh. C'est la présentation au temple. Sauf que quand on présentait les enfants au temple, on ne les posait pas sur l'autel. Mais donc voilà, vous avez la même idée. Et puis tout en haut, vous avez la Vierge du trône. Alors ça, c'est très, très occidental. C'est-à-dire, la Vierge Marie est le trône de son fils. Voilà, c'est, tu portes celui qui porte tout. C'est un tropère byzantin. Bon, voilà. Ah, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Chartres. Hein. Mais on va plutôt à Venise, si ça vous va. On va faire un peu de...
Je peux tout de même poser une petite question, non?
Oui.
En fait, vous avez parlé du XIIIe siècle comme s'il y avait eu un changement important. Et qu'est-ce qui a fait ce que l'on a perdu ce type d'interprétation?
Alors, on ne l'a pas vraiment perdu, mais elle n'est plus devenue principale. Elle n'est plus devenue première. Mais on ne l'a pas perdue. Hein. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé de culture et surtout, on a connu des grands fléaux, nous autres, en Occident. D'abord, on sait le grand fléau, c'est que le siècle d'avant, on s'est séparé de Byzance. On va en parler tout de suite hein, avec Venise. On a rompu avec Byzance. Et donc, c'est dommage parce que Byzance a toujours gardé cette théologie-là que de l'incarnation, de l'Eucharistie comme étant une incarnation, etc. Alors, nous, on s'est un peu infléchi au XIIIe siècle, XIVe, et ça va se durcir au XIVe, parce qu'on a connu des grands fléaux. Des famines, des pestes. Et du coup, on va comprendre à ce moment-là, ce qui n'est pas faux quand même, hein, que si le Christ a voulu connaître la passion, c'est pour nous rejoindre dans les souffrances de notre humanité. Et il a vaincu la mort pour vaincre les nôtres. Et donc, c'est le thème de Jésus éprouvant la mort, vainqueur de la mort, qui va dominer en Occident et qui va écraser quelque peu, par sa présence, qui va écraser quelque peu le thème de l'incarnation. Alors qu'en Orient, il n'y aura pas cet écrasement. Ils garderont les deux. Alors nous aussi, on a gardé les deux. Hein. Mais il est vrai que du point de vue iconographique, et même dans le discours sur l'Eucharistie, chez nous, c'est la passion du Christ qui va passer en premier. Donc voilà. Mais on le reverra. Hein. On le reverra parce que je vous parlerai aussi de la croix du Christ dans un des cours. Ça va, c'est bon?
Oui, merci.
Alors, tourisme à Saint-Marc. Visite guidée, mais c'est une visite théologique. Donc ici, on est sur la place Saint-Marc, à Venise. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont été à Venise. Si vous avez été à Venise, certainement, vous avez visité Saint-Marc. Il y a plein de choses à Venise, hein. Mais Saint-Marc, c'est absolument indispensable d'aller voir ça. Ici, on est en février. Février, c'est la bonne saison. Il y a un carnaval en février qu'il faut éviter. Mais si vous l'évitez, il y a beaucoup moins de touristes que dans les périodes qui suivent. Alors, ici, j'y étais en hiver et c'était tout à fait génial. On a tout eu. On a eu la neige. J'y suis allé deux fois de suite. On a eu la neige, on a eu les inondations. Vous voyez, ça commence là, on commence à le voir sur la place. Et on a eu de la pluie. On n'a pas eu beau temps. Mais c'est très, très agréable pour visiter parce que moins de touristes. Donc, on va s'intéresser à la logique iconologique, donc, des coupoles de la basilique. Il y en a cinq. Ah, alors attendez, pourquoi ça ne passe plus? Hop, je clique là et je clique là. Voilà. Il y a cinq coupoles. Tout à l'heure, je vous ai montré, hein, vous avez vu sur le plan que c'était un plan centré. Donc, une coupole par bras de la croix et une coupole un peu plus importante au cœur de la croix. Donc, voilà, c'est organisé avec cinq coupoles. On devine donc la forme de croix grecque que je vous ai indiquée tout à l'heure. Et je vous le dis pour information, la couverture des coupoles a été refaite au XIIe siècle et augmentée au XVIIe siècle. Voici le plan. Donc voilà l'augmentation, elle est très nette, elle est très visible, hein. L'augmentation, c'est les espèces de lanterneaux en forme de bulbe au XVIIe. Vous voyez, on voit très bien, c'est un peu baroque. Et puis le grand dôme qui est au-dessus a été complètement agrandi au XVIIe siècle. Il était beaucoup plus aplati dans le siècle d'avant. Et voici quelques dates très importantes. 828, c'est quand quand l'évêque décide de s'installer à Venise. 990, l'église prend la forme qu'elle a là. Donc une croix grecque, sans l'enveloppement à l'ouest, sans les narthex, si vous voulez. Donc c'est une croix grecque, parfaite. Déjà grande, hein. 1071, donc vous voyez, on est à la fin du 11e, on n'est même pas au 12e, hein. Donc vous allez voir les mosaïques incroyables. Du XIe siècle. Donc, on fait un cycle de mosaïques. Puis, la consécration, on est à l'orée du XIIe siècle, et en 1204, on augmente avec les porches de la façade. Je vous explique tout ça. 1204, c'est hyper important, parce que ça correspond à une malheureuse histoire dont s'est rendu coupable la Sérénissime, comme on dit, à propos de Venise, et peut-être que vous savez cette histoire, hein, c'est la mise à sac par les Vénitiens de la ville de Constantinople. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient mis à sac Rome, et des chrétiens. Et tout ça, peut-être le savez-vous, c'est un détournement d'une croisade au profit des caisses de la ville. C'est-à-dire, c'est uniquement pour des questions d'argent. Ils se sont vendus aux croisés et après, ils ont trompé les croisés en mettant à sac la ville de Constantinople et en se servant largement des richesses de la ville. Ça a été une honte absolue pour l'Occident. Les papes sont restés blêmes. Quelques grands saints ont quand même poussé des cris. C'est la plus grave cassure qui se soit opérée entre les églises d'Orient et d'Occident. Le schisme, il y a eu un schisme avant, hein, en 1043. Un schisme, si vous voulez, c'est une séparation sur des plans de doctrine. Le schisme de 1043 est beaucoup moins traumatisant pour les Byzantins que la mise à sac de 1204, car c'est un C'est une incongruité incroyable que des chrétiens massacrent d'autres chrétiens. Ouais, et donc, ils nous en veulent encore. Hein. C'est très étonnant. Hein. C'est une mémoire incroyable. Donc, 1204, retenez cette date-là. Pourquoi ? Parce que les Vénitiens, des voyous internationaux, des Poutine puissance 10, non contents de leur exploit, pillent Constantinople et garnissent la façade de Saint-Marc des trophées rapportés de leur pillage. Même pas peur, les mecs. ils commettent un larcin et ils montrent devant tout le monde que ce sont des grands voyous. Donc, n'oubliez pas ça quand vous visitez Venise. Alors, je vais vous montrer ça dans les détails. Voilà la façade de 1094. Vous voyez que rien ne déborde, les coupoles ne sont pas encore débordantes, parce qu'elles n'ont pas été augmentées. Donc, les dômes vont être refaits et surélevés au XIIIe siècle, puis au XVIIe, avec le petit lanterneau que vous voyez à l'image du dessous. Et vous voyez, on a les portes, là, on a 5 portes, hein, et tout ce qui est en bas, là, ces espèces de grands porches, c'est après 1204. Et donc, on a sur ces portails tous les trophées volés à Constantinople, dont les fameux chevaux, les 4 chevaux qui sont là-haut. Ben, c'était ce qui régnait sur l'hippodrome de Constantinople, donc à côté de Sainte-Sophie de Constantinople. Voilà, donc, ils ont été ramenés là sans vergogne. Et puis, pas mal de sculptures, etc. Nous, on ira voir tout ça. Je vais vous montrer des détails, mais pour l'instant, à propos des dates, je vous en rajoute une. Au XVIIe siècle, non seulement on a rajouté les petits lanterneaux et on a augmenté les charpentes des coupoles, mais on a perdu, à cause de l'humidité, tout le côté nord, on a perdu un certain nombre de mosaïques du XIe siècle. Et donc, au XVIIe, on refait les mosaïques qui sont tombées, qu'on a perdues. On les refait au XVIIe. Et donc, vous allez voir, lors de la visite, c'est très net, on distingue très nettement les mosaïques du XVIIe siècle des mosaïques du XIe siècle. Voilà, donc c'est pour bien vous signaler. Donc, vous voyez tout le côté nord, hein, pratiquement. Voilà. Alors, on va aller voir, je vais vous montrer 3 points de vue. Le 1, c'est pour vous montrer les trophées qui reviennent de Byzance. Le 2, c'est pour vous montrer ce narthex enveloppant sur la gauche, c'est-à-dire sur le nord du bas de la croix. Et puis après, on ira voir la fameuse coupole qu'on a déjà vue, celle de la création, pour enfin entrer dans l'édifice et essayer de comprendre la signification iconologique, c'est-à-dire la logique théologique, de la place des mosaïques et comment les mosaïques expliquent la liturgie. Donc voilà la première photo, c'est un des porches après 1204. Et donc tout ce que vous voyez ici est byzantin, c'est du vol. Et donc par exemple, vous avez les petits cabochons des symboles évangéliques qui ont été piqués à Sainte Irène, juste à côté de Sainte-Sophie de Constantinople. Ce qu'on appelle maintenant des moucharadiers, mais qui sont des claustras qui sont juste en dessous, pareil, ça a été piqué au palais de Constantinople, la frise de sculpture idem, et jusqu'aux chapiteaux, qui sont des chapiteaux byzantins et pas du tout des chapiteaux romans. Même les colonnettes en porphyre et en marbre ont été volées à Constantinople, ainsi que la parure en arc pointu là, que vous voyez au centre, vous voyez des sculptures, ça c'est arménien, ça faisait partie du trésor arménien de Constantinople. Donc bravo les Vénitiens, ils sont très fiers d'eux. Ça c'est, je vous l'ai montré, vous vous souvenez de la petite flèche, sur le côté gauche, on a là aussi des mosaïques qui couvrent tout le plafond, et alors c'est extraordinaire, parce que ce sont des sas de préparation, ils vous disposent à rentrer dans l'église. Et là, vous avez un cycle de l'Ancien Testament, c'est le cycle de Saint Joseph, c'est le patriarche, les 12 frères, les fils de Jacob. Et il y en a un qui a été vendu par ses frères. Et en fait, c'est lui qui va les sauver de la famine. Eh bien, les chrétiens y ont vu une préfiguration du Christ, vendu par ses frères, mais c'est lui qui va les sauver. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il est là. Et dans le narthex principal, vous avez un cycle de Moïse. Alors regardez sur cette coupole, c'est la coupole que je vous ai montrée tout à l'heure, mais si vous regardez l'arc qui précède, vous reconnaissez l'arche de Noé à droite. Et à gauche, vous reconnaissez, vous voyez, il y a Noé dans son arche, dans sa caisse en bois, là, qui lâche une colombe. Et donc là, vous avez dans le narthex tout le cycle de Noé, c'est-à-dire qui vous explique que le déluge, c'est fini, que l'Église est comme une arche, que là, on connaît le salut et qu'on va échouer sur la terre promise. Donc voilà, vous avez toute une narration complètement géniale. Et puis, vous reconnaissez la coupole de la création par laquelle on rentre dans l'Église. Alors, allons-y. Voilà la coupole. Je vous l'ai déjà un peu exposé, donc c'est bon. Hein. Et on entre. Toute la partie supérieure est couverte de mosaïques et la partie inférieure de marbre. Or, il y a là une logique axiale de là où on est jusque là-bas, tout au fond. Il y a une logique axiale qui est en fait une théologie liturgique en volume. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Les deux bras du transept sont couronnés de coupoles, à gauche et à droite, dédiées à Saint Jean et à droite à Saint Théodore. Pourquoi ? Parce que ce sont les deux saints patrons de la ville avant que ce ne soit Saint Marc. Parce qu'ils ont été récupérés, les reliques de Saint Marc, au Xe siècle. Il y a eu un échange entre Byzance et Venise. À l'époque, on ne se faisait pas la guerre. Et donc, ils ont hérité des reliques de Saint Marc. Alors évidemment, Saint Jean et Saint Théodore sont passés derrière. Ils sont passés au second plan. Mais on ne les a pas tout à fait oubliés. Et ils sont donc là. Et ces deux coupoles, ben, j'en parlerai pas. Parce que voilà leur signification. Elles ne font pas partie de la logique axiale. Voilà. Donc, une fois que c'est dit, ça nous permet de les oublier. Alors, si vous allez à Venise, peut-être que vous aurez un guide, un monsieur qui va vous parler, ou alors peut-être aurez-vous un guide, un livre. Et très souvent, on vous dira, ben, c'est simple, Venise, c'est simple. Alors là, vous pouvez déjà commencer à froncer les sourcils. C'est le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Voilà, le Père là-haut, le Fils au milieu, l'Esprit-Saint en bas. Non. Non, c'est pas ça. C'est faux. Je vais vous le démontrer. Hein. Une autre interprétation, peut-être un tout petit peu plus attentive, dit ben, il y a l'Ancien Testament là-haut, le Nouveau Testament au cœur de la croix, et l'Église, c'est-à-dire les Actes des Apôtres, dans la nef. Eh bien, c'est pareil. C'est non. On est dubitatif. Pourquoi je suis dubitatif sur la première interprétation ? Parce qu'il ne peut pas y avoir une iconographie du Père là où on célèbre l'Eucharistie, là où on écoute la parole de Dieu. Ce serait le Fils qui aurait fait le mettre là, à la limite. Mais en fait, ce n'est pas du tout cet ordre-là. Père, Fils, Esprit, ce n'est pas ça qu'il recherchait. Et donc, ce n'est pas ça non plus. Donc, il reste une autre solution que je vous propose, c'est celle-ci. C'est le Verbe éternel dans le sanctuaire, l'Ascension dans la coupole centrale et la Pentecôte dans la coupole de la nef, on va dire. Je vous explique ça, je vais vous le prouver. Allons vérifier. Ou alors on peut l'appeler comme ça aussi, c'est-à-dire ce qui se donne, le Verbe éternel qui se donne, le Verbe éternel en tant que créateur, et ça va bien avec la lecture de l'Évangile, avec la communion eucharistique, avec la célébration de la messe. L'Ascension, c'est-à-dire ce qui se retire, car l'Ascension c'est bien ça, c'est-à-dire il n'est plus physiquement là, il n'est plus là que par son Église, par ses sacrements, par la charité, par la parole de Dieu. Et la Pentecôte, eh bien, il est là par la grâce de l'Esprit-Saint qui anime tout ce que je viens de citer, et la parole de Dieu, et la caritas, et le peuple de Dieu, et l'Église. Donc voilà la logique des mosaïques. Allons vérifier tout ça. Ici, on est juste devant le narthex, le transept. Le transept, c'est la croix, hein, le cœur de la croix. Le cœur est donc en face de nous. Et donc, vous avez à gauche et à droite, sur les murs, vous voyez, sur le grand arc, on va appeler un intrado, l'arc très large, là, vous avez des mosaïques. On reconnaît, on commence à connaître un peu. À gauche, elles sont du 17e. Elles étaient tombées au fur et à mesure des siècles, ils ont remis ça au 17e. À droite, elles sont du 11e siècle. Et vous reconnaissez probablement l'entrée du Christ à Jérusalem. Et au-dessus, les tentations du Christ. Mais on va les voir en détail. Hein. Vous avez une coupole là qui fait la croisée de l'église, la coupole centrale. Puis là-bas au fond, au-dessus du sanctuaire, une coupole. C'est la fameuse coupole du Père, qui n'est pas le Père. Vous avez une barrière de cœur. Donc très nettement, là-bas au fond, là où il y a la coupole du Père, eh bien, c'est le sanctuaire. Sur la barrière du cœur, barrière qui a été installée au 8e siècle, vous avez l'ambon là-bas, cette espèce de… comme une chaire à prêcher, avec un bulbe dessus. Ce n'était pas pour prêcher, c'était pour lire l'évangile. Et donc, c'est un ambon, on lisait l'évangile et on prêchait. Et ici, là, devant nous, au premier plan, vous avez une espèce de petite surélévation. C'était là que se mettait le doge. C'est quand même incroyable, quoi. Il ne s'est pas mis à la hauteur de l'évangile, hein, quand même, il n'a pas osé. Mais on n'en est pas loin. Et donc, de l'autre côté de la barrière du sanctuaire, vous avez le sanctuaire et la fameuse coupole. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est donc sur cette barrière, en passant cette barrière, qu'on va lire l'évangile et qu'on va donner la communion eucharistique. Donc, probablement, l'iconographie qui est au-dessus est probablement hyper importante dans ce sens-là. Alors, on va y aller. Commençons par la coupole centrale. Le cœur est donc en bas de l'image. Vous voyez qu'il y a un programme iconographique sur les intrados, c'est-à-dire les arcs, les grands arcs qui forment le carré qui tient la coupole. Et puis, dans les angles, vous avez ce qu'on appelle un pendentif, c'est-à-dire ce triangle qui fait passer du cercle au carré. Tout ça est orné. Sur ces arcs, nous trouvons les scènes de la Passion et de la Résurrection. Et dans la coupole, l'Ascension avec les 12 apôtres qui entourent Marie, elle-même encadrée de 2 archanges, et en dessous, les 16 vertus. On va voir ça, regardez bien. Vous avez donc tout en haut, cette fois-ci on n'a plus le lustre qui nous gêne. Alors toutes ces photos hein, que je vous montre ne sont pas de moi parce qu'on a interdiction de prendre des photos à l'intérieur. Donc je les ai soit achetées sous forme de carte postale, soit trouvées sur Internet. Et donc je n'ai pas tout en photo, parce que bah, on ne trouve pas tout sur Internet. Et c'est dommage, parce qu'il y a des trucs que j'aurais voulu photographier d'une manière plus précise, mais il faut demander une autorisation, j'y avais pas pensé, enfin voilà. Donc on voit très bien quand même sur cette photo l'Ascension. En dessous, vous voyez la Vierge Marie, avec ses 2 gardes du corps, et les 12 apôtres. Et en dessous, donc, vous avez 16 vertus. Alors c'est quoi ces vertus? Eh bien, c'est bizarre. Ils en ont trouvé, c'est des allégories, si vous voulez, des qualités chrétiennes. On en connaît 7. Hein. Il y a 3 vertus théologales, foi, espérance, charité. Il y a 4 vertus bien connues, mais tout ça, ça s'est fixé assez tardivement. Et donc, à l'époque, en gros, par exemple, vous aviez la générosité qui était considérée comme une vertu. Vous aviez la patience qui était considérée comme une vertu. Alors que nous, avant, on avait juste, du temps des Grecs, on avait juste 4 vertus dites cardinales que l'Église a gardées hein, comme vertu principale, la force, la tempérance, la justice et la prudence, que vous avez évidemment là dans les 16. Mais pourquoi ils ont mis les vertus sous les apôtres? Eh bien, tout simplement, pour nous dire, parce qu'en dessous, il y a quoi? Il y a nous, il y a le peuple de Dieu. Tout simplement pour nous dire que si Dieu s'est retiré au ciel, il est toujours présent dans les pratiques qui sont les nôtres. Les pratiques généreuses, bien sûr, les pratiques vertueuses. Et donc, les vertus sont comme un déploiement de la présence du Christ, de la force de l'Esprit. Donc voilà l'idée. Et alors c'est une idée qui a été reprise également dans l'art baroque et qui nous vient du siècle précédent. Voici un pendentif. Vous voyez, vous avez quatre pendentifs. Donc je vous ai expliqué ce que c'est. C'est les grands triangles qui font passer du cercle au carré. En voici un. J'ai choisi Saint-Marc. Voilà. Et vous avez en dessous un fleuve. Un des quatre fleuves du paradis. Vous savez, dans le livre de la Genèse, on nous décrit l'Éden, et on nous dit, dans l'Éden, il y a quatre fleuves, il y a le Tigre, l'Euphrate, et puis deux autres dont j'ai oublié les noms. Et on les met juste sous les évangiles. Pourquoi mettons ça avec une amphore qui déverse de l'eau? Pourquoi les mettons là? Parce que l'évangile est source d'eau vive, comme au paradis. Et donc, vous voyez, vous avez une signification là qui est tout à fait intéressante. La coupole avec le Christ qui se retire, il se retire, certes, mais la parole de Dieu, elle continue à être efficace et à déverser des sources d'eau vive. Et nous sommes, nous, juste en dessous. Bon, voilà la théologie, vous voyez, les mosaïques dans l'art byzantin et dans l'art roman, c'est de la théologie, c'est pas de la décoration. Donc voici notre coupole avec un arc. Très important, hein, c'est des arcs qui font 7 mètres de large. Et forcément, il faut porter les coupoles. Hein. Et donc, c'est de l'architecture du 8e, 9e siècle, donc c'est épais, quoi. Et donc, sur cette largeur, ben, on peut mettre des mosaïques. Alors là, vous avez un programme sur cette coupole, sur cet arc. On voit à droite la crucifixion. À gauche, une résurrection. Alors, la résurrection, on va la voir de plus près, mais vous voyez, elle est figurée façon byzantine. C'est-à-dire, vous avez le Christ, vous le voyez à gauche, hein, le Christ qui arrache Adam des ténèbres de la mort, avec sa croix, vous voyez, qui sert presque d'épieu pour vaincre l'Hadès, pour vaincre la mort. Et c'est donc le Christ ressuscité qui va chercher au séjour des morts les morts pour les faire ressusciter. Donc voilà, c'est comme ça qu'on représente la résurrection sous le mode byzantin. Et donc en face, vous avez la crucifixion. Voilà le détail, tiens, j'aurais dû vous le montrer. Le détail de ce qu'on appelle l'anastasis en grec. On voit Adam, vous voyez, le pauvre Adam, qui sort comme dans une tombe. Et puis sous les pieds du Christ, vous avez l'enfer. Une caverne noire avec des ossements et des serrureries. Donc tout ça a explosé le jour de la résurrection. Ça veut dire que l'Hadès est vaincu, quoi. Puis les personnages en blanc, ce sont les personnages de l'Ancien Testament. Et puis à droite, vous avez Saint Jean-Baptiste et les deux rois David et Salomon. Au milieu, vous avez une scène que vous connaissez bien, mais qui est également très byzantine. C'est le moment où les femmes vont au tombeau. Et donc, on est déjà dans la résurrection. L'ange, vous voyez, est assis sur la pierre, désigne le linceul, et dit, mais pourquoi vous restez là avec les morts? Allez donc annoncer qu'il est vivant. Donc, c'est l'annonce de la résurrection, et à droite, vous avez la crucifixion. Continuons. Sous la crucifixion, vous voyez ici le baiser de Judas et, tout à fait à droite, le portement de croix. Une espèce de foule, et vous voyez une croix qui flotte au-dessus, c'est le portement de croix. Ça n'a rien à voir avec notre main de croix à nous. C'est déjà triomphal, pratiquement. Alors que nous, ben, vous voyez une grande différence de sensibilité entre l'Orient et l'Occident. Nous, nos chemins de croix sont très douloureux, terrifiants, quoi. Pas du tout à Byzance. Hein. Voilà, c'est une des différences très intéressantes. Tandis qu'au fond de l'arc, regardez bien, au fond de l'arc, vous voyez, que, pas celui-ci où il y a la crucifixion, mais là-bas, au fond, vous avez le Christ qui rentre à Jérusalem, hein, avec des manteaux sous les pieds de l'âne, et juste au-dessus, vous avez, ah zut, j'aurais dû mettre une deuxième flèche, et juste au-dessus, vous avez les tentations du Christ. Et on voit trois fois le Christ en bleu et un petit diablotin devant lui, ce sont les tentations du Christ. Donc voilà, c'est le cycle de la passion, puis là-haut, le commencement du ministère public. Voilà. Sous, donc on va de l'autre côté, vous aviez crucifixion, baiser de Judas, portement de croix. De l'autre côté, vous aviez l'anastasis, la résurrection, vous voyez un détail ici, hein. Regardez l'Hadès piétiné par le Christ ressuscité. On voit une espèce de bonhomme hirsute, terreux, et Jésus lui marche dessus, et puis on voit des clés, des serrures et tout ça. C'est-à-dire il a brisé les portes de l'enfer, et il arrache Adam pour l'emmener avec lui dans la résurrection. Et juste en dessous, alors ça c'est une scène très facile à reconnaître, c'est le fameux doute de Thomas. Donc voilà pour cet ensemble. Je relève quand même quelques scènes que vous pouvez voir ici. Ça, c'est un autre évangéliste, hein, avec un autre fleuve du paradis. Et tout à fait sur le côté, on reconnaît vaguement le lavement des pieds en bas. Vous savez que cette ribambelle de gens alignés. Et vous voyez tout au fond, là-bas, le premier, c'est Saint-Pierre avec le lavement des pieds. On voit Jésus à peine. Et juste au-dessus, voilà ce genre de photo que je n'ai pas pu avoir. Et juste au-dessus, vous avez la communion, la scène. Voilà. Ah ben voilà, je savais bien que j'avais des petites flèches. Voilà. C'est bon. Alors, revenons à notre ensemble. Voici la coupole. Voici l'arc dans son ensemble. Donc, maintenant, ça va, vous identifiez bien, hein. Voilà, donc c'est bon, vous identifiez, il y a la coupole centrale en bas, là, coupole au-dessus des gens, dit coupole de la Pentecôte, on va voir ça, et donc cet énorme arc, chargé de représentation, il est au milieu des gens, au-dessus des gens. Voilà la coupole, et voilà l'ascension dans son détail. On voit les sept orbes célestes et le Christ assis sur le cosmos, avec les anges ascenseurs, vous voyez, qui l'élèvent au-dessus de nous. Alors, il n'est pas tout à fait retiré, puisqu'il nous adresse sa parole, vous voyez, le rouleau de la parole, et qu'il nous bénit. Il y a une espèce de continuation de l'efficacité créatrice de sa parole. Voilà pour les scènes qu'on vient d'identifier de la coupole, que je vous récapitule ici. Ascension, 12 apôtres avec la Vierge Marie, 16 vertus, les évangiles ouverts, les fleuves. Voilà, tout ça vous avez bien suivi. Et les scènes de la Passion-Résurrection qui enveloppent cette coupole centrale. Remarquez bien qu'il n'y a que trois côtés. Le quatrième côté, qu'est-ce qu'il y a? Puisque la Passion-Résurrection, s'ils ont mis là, ils auraient dû mettre sur le quatrième côté aussi. Eh bien non. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser pour donner une clé d'interprétation de théologie liturgique. On va aller, pour l'instant, voir les transepts. Sur les transepts, vous avez un cycle de la nativité, à droite, et un cycle des guérisons, à gauche. Voici quelques scènes du cycle de la nativité. Regardez que toute la partie basse a été perdue et refaite au 17e. On voit la différence. Donc, toute la partie basse, étage 1, étage 2, 17e, étage 3, 11e siècle. Et vous reconnaissez, en face, le songe de Joseph. Vous le voyez. Ensuite, le voyage à Nazareth. Il est né à Bethléem et dans un songe, l'ange lui dit « Hérode est mort, tu peux rentrer chez toi ». Et il part à Nazareth. Et à droite, Jésus au milieu des docteurs de la loi. Donc, c'est, vous voyez, c'est traditionnellement le cycle de la nativité. Et donc, à gauche, c'est maintenant facile à comprendre, vous avez la visitation et le mariage de Joseph. Voilà le détail de ce qu'on voyait au fond. Regardez la différence avec les mosaïques du 17e. C'est plus sobre au 12e. C'est moins remuant. Bon, voilà, on a vu ça. Maintenant, on va de l'autre côté, l'autre transept. Si vous suivez toujours, il faut s'accrocher un peu. Donc, je vous ai dit, c'est le ministère public de Jésus. Alors, on en reconnaît. Alors, l'arbre de Jessé, l'énorme arbre de Jessé, qui est pas mal d'ailleurs, hein, 17e aussi, hein, vous aviez compris. Et donc là, sur les deux côtés de cette voûte, vous avez le ministère public, ce sont des scènes choisies. Alors, par exemple, sur le côté est, vous avez la guérison d'un paralytique et vous avez la pêche miraculeuse. Voilà, donc ça, c'est très facile. Vous voyez toujours le Christ avec un nimbe cruciforme. Facile, hein. De l'autre côté, la Samaritaine. Très belle scène, très frontale, très, très byzantine dans son style. Et puis ici, alors là, voilà, c'est facile à deviner, hein, la multiplication des pains et des poissons, oui, parce que d'une main, il bénit les pains, de l'autre main, il bénit le poisson. Et donc, il donne à ses disciples de donner aux foules. Allons voir la coupole sous laquelle nous sommes, sous laquelle les gens sont. Donc, c'est la coupole de la Pentecôte. Hein. Voici la coupole. À gauche et à droite, j'ai mis en rose, en violet, l'histoire des actes des apôtres. Mais je m'y attarderai pas. En gros, c'est les actes des apôtres où on les voit configurés au Christ. Ils font des miracles, des guérisons, eux aussi. Donc, voilà la coupole. Au centre, on a un trône vide et il y a la colombe dessus. C'est extraordinaire comme type d'iconographie. C'est donc la colombe du Saint-Esprit. Vous avez 12 rayons comme les 12 apôtres. Enfin, tout ça, c'est vraiment facile à comprendre. Et en dessous des 12, tiens, je ne l'ai pas reproduite, regardez, en dessous des 12, vous avez des figures. Là où il y avait, sur l'autre coupole, les vertus. Eh bien ici, il y a 33 figures. Ce sont des personnages de l'Ancien Testament, groupés par deux, sauf un groupe qui est par trois. Vous le voyez juste en bas, légèrement à gauche, un, deux, trois petits bonhommes, ce sont les trois enfants dans la fournaise du livre de Daniel. Donc voilà, c'est des grandes figures de l'Ancien Testament. Donc il y a Isaac, Jacob, Abraham, etc. Et puis à gauche et à droite, je vous l'ai dit, dans les tribunes, ainsi que des actes des apôtres. Allons voir notre fameuse coupole du cœur. Donc voilà, je vous donne la solution tout de suite, hein. Il ne s'agit pas de Dieu le Père, mais du Christ Emmanuel, c'est-à-dire de l'éternelle jeunesse du Logos créateur. Voilà, c'est ça, en fait. Et les mosaïques de grands arcs, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a trois arcs, et il y en a un qui est muet. Ben non, il n'est pas muet, il raconte l'incarnation. Donc l'incarnation, elle est là, la nativité. Sur le côté droit du transept, on avait le cycle de la nativité. Mais où elle était, la nativité? Eh bien, elle est là. Elle est sur l'arc principal, celui qui donne accès à l'abside, celui sous lequel on écoute l'Évangile, celui sous lequel on reçoit la communion eucharistique, avec au-dessus de nos têtes un cycle de l'incarnation. Et dans le sanctuaire, au-dessus de l'autel, là où le prêtre va dire les paroles mêmes de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », vous avez le Logos éternel, et c'est donc celui-là qui se fait chair en venant à Nazareth, mais c'est celui qui se fait chair dans la parole qu'on écoute, et c'est celui qui se fait chair dans la communion eucharistique. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, hein. Donc voilà, c'est absolument extraordinaire. On va voir maintenant ça en détail. Donc le Christ, c'est évidemment le Christ, c'est pas le Père. entouré d'une... maintenant, on commence par les connaître. Hein, c'est Marie, toujours. Marie est l'image de l'Église à l'époque. Et vous avez 11 apôtres. Non, ce n'est pas des apôtres, là, c'est des prophètes. C'est des prophètes de l'Ancien Testament. 11 prophètes et 2 rois. C'est bizarre. Ce sont les rois David et Salomon. David et Salomon, parce que David est censé réputer être celui qui a écrit les psaumes, et Salomon, celui qui aurait écrit les livres de sagesse. Bon, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait exact hein, du point de vue de la chronologie, mais peu importe. Ils représentent en tout cas ce type d'écriture. Et les autres, ce sont les prophètes, les petits et les grands prophètes. Donc, on reconnaît Isaïe, c'est le premier, hein, et Jérémie, Ézéchiel, enfin tous, quoi. Ils y sont tous, y compris les petits, Habacuc, Amos, Osée, enfin voilà, les prophètes. Autrement dit, et c'est ça qui confirme mon argument, c'est le verbe déployé. Et c'est le verbe éternel qui a parlé par les prophètes. Il a parlé par les prophètes. Et on le dit dans la liturgie, on le dit dans le credo. Et donc voilà la manière dont il parle. Et ensuite, il va parler par les évangiles qui sont sur les pendentifs de la coupole. Et ensuite, il va parler, il va se rendre présent sur l'autel de l'Eucharistie. Donc voilà, et c'est ça la clé pour comprendre l'ensemble. Donc voilà les évangiles. Cette fois-ci, ils sont représentés avec leurs symboles et les livres sont fermés. Voilà, donc ils vont, c'est le temps, si vous voulez, de la maturation, de la préparation, et c'est juste en tout qu'ils vont s'ouvrir, en fait, pour lire la parole de Dieu, qui va être lue dans la liturgie.
Excusez-moi, peut-on rappeler les symboles des évangiles, s'il vous plaît ?
Oh, si vous voulez, hein, j'ai choisi Saint-Marc, toujours. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, vous savez, c'est parce que, comme je vous disais, j'ai acheté des cartes postales, et évidemment, on trouve en paquet de 1000 Saint-Marc, et les autres, on ne les trouve pas. Bon, mais il y a donc Saint-Marc, c'est le lion de Saint-Marc. Saint-Jean, c'est un aigle. Saint-Luc, c'est une figure d'homme. Et Saint-Matthieu, c'est un animal, un bœuf.
Non, c'est le contraire. Luc, c'est le bœuf taureau.
Oui, oui, Luc, c'est le bœuf, parce que son père était Zacharie. Et Zacharie, il était pas officier, il était prêtre du temple.
Merci beaucoup.
Donc voilà celui que les gens qui n'ont pas regardé appellent le Père. Ben non, c'est l'Éternel. Alors, bon, il y avait de la confusion. Hein. D'abord, ils ne connaissaient pas très bien l'art byzantin, parce qu'à Byzance, c'est un thème très connu. On représente Jésus adolescent, et ça représente l'éternelle jeunesse créatrice du Verbe. L'éternité du Verbe comme créateur. Donc, on le représente à Byzance, vous avez plusieurs fois ce genre de représentation. Mais là, c'est incontestablement, il a un âme cruciforme, ce qu'on ne fait jamais, jamais, jamais sur la figure du Père. Donc, c'est vraiment cette interprétation qui est juste. Hein. Il est question du déploiement du Verbe éternel, du Logos, celui qui s'est fait chair et celui qui se fait communion eucharistique. Celui qui constitue l'assemblée, qui vient prier dans l'Église. Voilà l'efficacité du Verbe. Donc évidemment, il est pas mal du tout. Hein, c'est, en fait, c'est une vraie méditation sur le Logos éternel. Alors maintenant, du coup, je vous montre, alors là, j'ai beaucoup de mal à les trouver, l'arc qui est au-dessus de l'ambon, vous vous souvenez ? L'ambon, la barrière du sanctuaire par lequel sortent le diacre et le prêtre qui vont lire l'évangile, barrière du sanctuaire par lequel passe le prêtre qui va donner la communion, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessus ? Eh bien, on voit l'incarnation. Et là, ma flèche, là, vous montre l'annonciation. En dessous, vous avez une nativité. Donc, juste au-dessus de l'ambon. Alors voilà une autre photo, je ne sais pas si vous voyez mieux, enfin bon, voilà la nativité un peu mieux peut-être, l'annonciation, vous reconnaissez probablement. Hein. Et de l'autre côté, alors on a un mal fou à voir, attendez, je suis perdu, non, c'est pas ça, Oui, sur le... Si, si, c'est ça. Regardez, l'Annonciation est à gauche. Vous voyez le lustre qui dégringole. La première sphère du lustre, vous voyez l'ange qui va plonger sur Marie. En dessous, vous avez la nativité. Et donc, de l'autre côté, vous avez la présentation de Jésus au temple et en dessous, le baptême du Christ. Vous reconnaissez tout ça? Et donc, au total, vous voyez, vous avez dans cette longueur, dans cet axe qui nous oriente vers le sanctuaire, vous avez là-bas le Christ Pantocrator en bleu. Juste au-dessus du sanctuaire de l'autel, vous avez le cycle du Logos éternel, avec ce grand arc-là que je viens de décrire. Ici, nous sommes sous l'arc, sous la coupole principale, qui est la coupole du Fils en tant qu'il se retire, de l'Ascension. Et puis, vous avez la coupole derrière moi de la Pentecôte. Donc, voilà la signification tout à fait excellente. Et alors, à Venise, vous avez, non seulement vous avez les mosaïques, mais il faut également regarder le sol, qui est absolument extraordinaire. Il est comme ça sur toute la surface. Mais bon, là, il faut bien le dire, il y a quand même moins de théologie que dans ce que nous venons de voir. Voilà, on a un peu de temps, si vous voulez, hein, on a quelques minutes pour les questions. Donc voilà, si vous avez telle ou telle question, on peut y aller.
Moi, c'était juste sur une des images précédentes où on voyait le Christ encore avant. Encore. Voilà. Qu'est-ce qui tient dans la main cette boule deux fois?
Non, ce n'est pas une boule, c'est le câble que le photographe a habilement retiré. Vous savez, c'est le câble du luminaire.
Ah, d'accord. Qui a esquinté la
mosaïque. Hein. D'accord. Et en fait, c'était une main qui bénissait.
D'accord. Ouais.
Et sur l'autre main, dans l'autre main, il tient un rouleau, le rouleau de la parole.
D'accord.
Donc, ils n'ont pas restauré, ils n'ont pas bouché le trou, c'est dommage.
Oui, parce que j'avais bien identifié le rouleau, mais
ouais, c'est bizarre,
pour l'autre image, encore avant, on le voit même mieux. Et là, on voit clairement, je me disais, il tient quelque chose qui pend.
Voilà, c'est le lustre. Il était probable qu'à l'époque de Byzance, les lustres n'étaient pas comme ça. Donc, toute première architecture. Mais... c'était probablement des lampes portées par des poteaux métalliques.
D'accord.
Mais bon, ça, parce qu'évidemment, ils ont fait un trou, quoi. Ouais. Et ils n'ont pas fait que celui-là. Hein.
En tout cas, ça donne très envie d'aller voir de plus près.
C'est intéressant. Il faut aller à Venise. Vous avez 1000 choses à voir à Venise. Il faut y passer une semaine, hein. Il ne faut pas y passer 2 jours. Voilà, y a-t-il d'autres questions?
Moi, j'aurais une question. Ouais. Pourquoi en année liturgique, on n'a pas Saint-Jean et à quel moment on lit Saint-Jean?
Ah, alors, le prologue de Jean, figurez-vous que c'est une vraie catastrophe, parce qu'il est lu une fois dans l'année. Alors, avant, il faut vous souvenir qu'il était lu à toutes les messes, mais à la fin de la messe, quand les gens s'étaient retirés, le prêtre lisait le prologue. C'est ce qu'on appelait le dernier évangile. Vous savez que dans l'ancienne liturgie, celle à laquelle certains voudraient revenir, rien n'était fait pour les laïcs. Tout était fait pour le clergé. Donc les gens n'étaient plus dans l'église, la messe était finie et on lisait l'évangile de Jean. Mais il est lu dans la liturgie actuelle une fois dans l'année et c'est une vraie catastrophe. C'est le matin de Noël. Donc, théologiquement, c'est vachement bien vu, mais pastoralement, c'est une catastrophe. Parce que les gens viennent à la messe, ceux qui viennent à Noël, le jour de Noël le matin, ils sont fatigués de la veille, parfois ils viennent à la messe deux fois ou trois fois dans l'année, et ils tombent sur l'évangile le plus difficile, le plus difficile de toute l'année. Et alors, si le prêtre se lance dans un commentaire du prologue, alors là, ils sont perdus, hein. Ils disent, mais nous, on venait pour Noël. Il est né le divin enfant, les anges dans nos campagnes, enfin des trucs comme ça, quoi. Et ils entendent le prologue de Jean. Comment voulez-vous qu'ils en sortent, quoi ? Alors du coup, il est autorisé pastoralement, et moi c'est ce que je faisais, hein, toujours, il est autorisé de reprendre le texte de la veille. Et donc moi, le jour de Noël, je reprenais le texte de la veille, vous savez, les bergers qui entendent, les anges qui chantent, dans nos campagnes, il est né le divin enfant, voilà, je le reprenais. Que les gens entendent parler de Noël, quoi. Mais c'est pas bête d'avoir mis ce texte le jour où on célèbre l'incarnation.
Ok, merci. Du coup, on lit très peu Jean, en fait.
Alors, on l'a lu là, dimanche dernier. Non, on ne lit pas énormément. On lit quand même les grands textes. On lit la Passion de Jean, tous les vendredis saints. Parce que c'est la Passion de Jean, ça je vous l'expliquerai dans un de mes cours, qui donne le calendrier que nous suivons aujourd'hui. Vous savez, le jour des rameaux, le jeudi saint, le vendredi et le samedi, qui donne exactement cette semaine-là. Et donc, c'est la semaine que nous utilisons pour la liturgie. Alors que les autres n'en parlent pas. Ils ne parlent pas d'une semaine comme ça. Donc voilà, Saint Jean, c'est pas très souvent. La période de Pâques. Les grands miracles pendant le carême. Les grands miracles, les grands textes. Par exemple, pendant le carême, vous avez la Samaritaine. Non, la Samaritaine, ce n'est pas dans Jean. Attendez, oh, j'ai un trou. Nicodème, quand est-ce qu'on l'a ? On l'a, si, on a des trucs de Jean. Mais bon, il faudrait que je vérifie quand est-ce dans la liturgie.
Merci beaucoup.
Voilà. Il y a d'autres questions ? Ben sinon, on va se quitter. Hein. Et donc, on se retrouve pour les survivants, on se retrouve pour faire la deuxième partie de ce chapitre où on parlera de l'enfance du Christ, de la Vierge Marie, etc. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci encore.
Merci, au revoir.
À plus tard.
Bernadette,
oui. C'était très, très enrichissant.
Merci.
Je voulais te demander, est-ce que il y aurait moyen que tu me fasses un compte rendu de la dernière réunion où j'étais en réunion du groupe? Tu pourrais m'envoyer un truc ou
Mais ce n'était pas moi l'interlocutrice. Anne, aide-moi. Qui était le C'était Josiane, non?
Oui. Ouais.
C'est Josiane qui peut nous.
Non, Josiane, c'est moi.
Ah non, alors...